RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 RFI. Notre deuxième invité avec Véronique Rigolet et Manuel Bompard. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes coordinateur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui doit en ce moment préparer son débat, j'imagine.
Oui, voilà. On a un petit peu préparé ensemble cet après-midi. Ouais.
Quelques coups d'éclat prévus?
Non, on vient dans l'idée que c'est un événement de la campagne où il y a des millions de Français qui rentrent aujourd'hui dans la campagne qui vont pouvoir accéder à nos propositions. Donc on y vient sereinement dans le débat.
Sereinement. Mais quand on a réussi le premier, on se dit que le deuxième, on peut le rater, non?
Non, je ne vais pas rater le débat.
Il n'y a pas une petite différence avec les petits candidats cette fois-ci, d'avoir Poutou qui peut attaquer le candidat Mélenchon, bien entendu Nathalie Arthaud.
C'est pas le même format, donc nécessairement le temps de parole va être plus divisé. 11, c'est bien pour faire un match de foot, sans doute un petit peu plus difficile pour faire un débat. Nous, on n'est pas, il n'y a pas d'inquiétude particulière. On y vient comme c'est un événement de la campagne à 3 semaines. C'est l'objectif de présenter le programme de Jean-Luc Mélenchon, ses propositions à des Français qui, pour certains, vont rentrer maintenant dans l'élection. Donc voilà, on trouve que c'est un moment utile de la campagne.
Tout à fait. Alors, depuis le premier débat, une dynamique porte Jean-Luc Mélenchon, votre candidat qui a doublé Benoît Hamon dans les sondages. Il est donné à 15 ou à 16, ça dépend des sondages. Et quand on regarde l'affiche de 2012, en rouge révolutionnaire, prenez le pouvoir. 2017, c'est une autre affiche, couleur bleu, un peu pâle, la force du peuple. Le ton est plus apaisé, presque mitterrandien. Quelles leçons vous avez tirées de 2012 c'était un peu écroulé à la fin?
Non, mais d'abord, je pense que les deux contextes sont différents. On a une élection cette année qui est quand même une élection dans un contexte qui est extrêmement instable, troublé, où les choses bougent très vite. On nous a présenté déjà, et la première fois, ça devait être M. Juppé qui gagnerait quoi qu'il arrive, et puis finalement, c'est pas M. Juppé. Donc je trouve qu'il y a une dimension, un caractère extrêmement incertain à cette élection qui fait que, voilà, nous on a souhaité incarner une forme de stabilité, de cohérence dans l'élection, de constance. Ça fait plus d'un an qu'on est en campagne, on a construit sur un programme des propositions, et je pense que cette affiche, elle est à l'image de cette sérénité, de cette constance dans les positions.
C'est un Jean-Luc Mélenchon apaisé. Certains disent qu'il s'est en quelque sorte déradicalisé pour mieux se présidentialiser, et certains d'ailleurs font remarquer, et à juste titre, qu'il n'y a plus l'international à la fin de...
Il
y a la Marseillaise, voilà, il est dans les clous, non?
Non, mais il n'y a pas de...
Pour un insoumis?
Du point de vue de nos propositions, je pense que il n'y a pas énormément de variations par rapport à la campagne de 2012. Il y a des éléments qu'on a actualisés au vu de l'évolution du contexte politique. Après, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il a choisi une stratégie, ce qu'on a appelé fédérer le peuple, c'est-à-dire parler au plus grand nombre et pas parler uniquement à des gens qui se reconnaissent dans une catégorie qui serait à la gauche du Parti Socialiste.
C'est pour ça qu'il fallait enlever l'international à la fin des meetings.
Non, mais après, si dans les meetings, vous savez, l'international, elle est chantée par les militants, mais oui, il y avait l'idée de pas être uniquement dans des identifiants qui ramènent à une catégorisation politique particulière, à une forme de marginalité politique à la gauche du Parti Socialiste. Notre objectif dans cette élection, c'est de proposer aux Français dans leur ensemble, dans leur globalité, un projet politique, une rupture avec la 5e République, un passage à la 6e République, une prise en compte enfin de l'impératif écologique, une manière de répondre de manière franche et directe à l'urgence sociale. Donc on a essayé d'avoir un programme et des propositions qui parlent aux Français dans leur grand nombre, quelle que soit leur étiquette politique, y compris, vous savez, il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent plus dans les étiquettes politiques gauche-droite. Donc voilà, on essaie de parler à tout le monde et c'est dans cet état d'esprit qu'on est.
Je le disais en introduction, il a fait un bon débat. Mélenchon, la première fois, il a été drôle. C'est vrai qu'il a mis les rieurs de son côté, il a mis de l'ambiance, c'est un peu... agent d'ambiance. On sait que c'est un tribun hors pair, donc il réussit ce genre d'exercice. Mais est-ce qu'on peut dire dans le fond que ça lui donne pour autant du crédit pour être un président de la République. Est-ce que c'est pas plutôt un capital sympathique, un capital d'adhésion à ses idées?
Bah ça, on le verra le 23 avril prochain, mais nous, c'est pas ce qu'on observe depuis le débat et depuis aussi la marche du 18 mars, parce qu'il y a eu deux moments forts de la campagne qui nous ont permis d'enclencher une nouvelle dynamique. Les retours qu'on observe, c'est des gens qui s'intéressent à nos idées, à nos propositions, qui en ont assez de ce système politique, et y compris qu'on voit dans cette élection, c'est-à-dire des responsables politiques qui sont de plus en plus déconnectés des préoccupations des Français. Et de ce point de vue-là, je crois que Jean-Luc Mélenchon, il incarne aussi une proximité, une manière dans les meetings, vous disiez, c'est un trimain, mais au-delà de ça, il part des préoccupations quotidiennes des Français, il essaye d'apporter des propositions politiques, des réponses, qui sont des réponses raisonnables et sérieuses. Donc moi, je crois que c'est pas qu'un capital de sympathie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre programme, à nos propositions. Voilà, maintenant l'élection, il y a encore 3 semaines de campagne. Nous, on souhaite faire en sorte, ce que on disait, il y a beaucoup d'indécis. Donc on souhaitait aussi travailler à faire de cette France indécise une France insoumise.
Parce que pour le moment, vous n'êtes toujours pas qualifié pour le second tour,
hein,
même si la dynamique est là. En 2012, elle était là aussi, ça a fait pchit. Comment vous faites en sorte que cette fois-ci, on ne refasse pas pchit, que le soufflet ne retombe pas?
Je comprends votre question. Je pense que par rapport à 2012, d'abord, le contexte politique est assez différent. L'élection est beaucoup plus incertaine. En 2012, il y avait quand même une domination des deux grands partis, le Parti Socialiste et l'UMP à l'époque, qui quand même dominaient cette élection. Je crois qu'on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Aujourd'hui, tous les scénarios sont
aujourd'hui
possibles.
Certains disent que c'est une tripartition, certains en voient quatre.
Moi, je pense que clairement, il y a 3 grandes familles. Il y a une famille incarnée par Madame Le Pen, que moi, je résumerai en disant c'est la guerre de tous contre tous. Il y a la figure de Monsieur Macron qui porte un libéralisme poussé à l'extrême, c'est le chacun pour soi. Et puis, il y a une famille de la solidarité, du partage des richesses. Je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne
cette famille. Les Républicains, vous les sortez?
Si vous comparez aujourd'hui, en tout cas du point de vue des intentions de vote, le candidat du Parti Socialiste ou le candidat des Républicains, ils sont en net et en très net recul par rapport au score de 2012.
Alors, chez vous, c'est pas toujours cohérent parfois ce que vous dites. On va écouter Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise. Voici ce qu'elle a déclaré.
Faut être cohérent. Comme l'idée c'est d'abolir la 5e République, les personnes qui ont été élues dans la 5e République ne seront inéligibles pour la 6e République. Voilà ce genre de choses.
Voilà, alors les personnes qui ont été élues sous la 5e République ne le seront pas dans la 6e. Il me semble bien que monsieur Mélenchon a été élu sénateur en 86, réélu en 95 et en 2004 jusqu'en 2010. Donc ça tient pas votre théorie.
Si ça tient. Alors c'est parce que je pense que vous avez mal compris.
J'ai mal compris.
Nous sommes aujourd'hui dans les institutions de la 5e République. Donc l'élection présidentielle vise à élire le président de la 5e République. Donc effectivement Jean-Luc Mélenchon est candidat à cette élection. Jean-Luc Mélenchon propose l'une de ses premières mesures de convoquer une assemblée constituante pour rédiger une constitution d'une 6e République. Et nous disons, et ce que disait Raquel Garrido à l'instant, que dans cette constituante ne pourraient pas siéger des parlements de la 5e République. Pas uniquement pour sanctionner les élus, mais pour mettre un petit peu d'oxygène dans notre démocratie. Je crois qu'au vu de comment se déroule cette élection, on en a bien besoin d'un petit peu d'oxygène. Donc c'est tout à fait cohérent.
Pas de dégagisme pour Mélenchon.
Bah si.
Qui quand même a vieux de la vieille aussi.
Non mais Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit, on a besoin pour passer à la 6e République de gagner les élections dans le cadre de la 5e République. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il propose de faire. Ensuite, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, une fois élu, une fois que la constituante a fait son travail, que la 6e République est en place, Jean-Luc Mélenchon peut rentrer à la maison.
Bon, on en revient à cette question, comment vous faites pour arracher votre qualification pour le second tour? Il va y avoir des grands meetings, hein, Marseille, Lille, Toulouse, il y a des nouveaux goodies, comme disent les jeunes, après l'hologramme, vous avez... Le mélanphone, il va falloir nous expliquer ça pour aller chercher les abstentionnistes, si j'ai bien compris.
Oui.
Ça marche comment?
C'est assez simple. C'est l'idée de faire une campagne aussi par téléphone.
Mélanphone.
C'est un outil qui permet, en fait, aux plus de 360 000 aujourd'hui appuis citoyens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, de pouvoir aussi faire la campagne en téléphonant à des citoyens. Et ces citoyens, on les choisit en fonction des analyses électorales dans les bureaux, qui sont les bureaux les plus abstentionnistes. Afin de les appeler, de leur permettre de consulter notre programme, nos propositions, et de les appeler à participer au vote. Il y a beaucoup de gens qui hésitent.
Alors ça, c'est la partie un peu call center. Il y a aussi le jeu en ligne, pour ceux qui...
Oui.
Voilà. Fiscal Combat.
Oui, c'est un jeu vidéo qui va sortir à la fin de la semaine.
C'est très high-tech chez...
Bah oui, chez écoutez...
Ça marche ce genre...
Bah il n'est pas encore lancé, donc on verra bien, mais c'est une première dans une campagne électorale, ça sortira vendredi.
Alors sur l'hologramme, il y a Bernard-Henri Lévy qui a dit « C'est un sommet, il a tweeté, c'est un sommet inégalé de la jouissance narcissique en politique.
» J'ai vu ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, non?
Mais c'est de quoi il parle, au moins.
Voilà.
Oui, ça sert tout ça? C'est pour rajeunir l'image de Jean-Luc Mélenchon?
Non, c'est
également,
pas pour...
il avait peut-être besoin...
Non, mais nous, on a choisi dans cette campagne d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Mmh. De ce point de vue-là, la campagne de 2017, elle ressemble à aucune autre. Et il y a notamment une place des réseaux sociaux, d'Internet dans cette campagne qui me semble avoir pris des proportions beaucoup plus importantes que la dernière fois. Donc nous, on cherche à utiliser tous les outils. Le jeu vidéo, d'abord, ça permet aux gens de s'amuser et c'est bien aussi de s'amuser.
Ça fait du buzz aussi, non?
Non, mais c'est aussi ça... peut permettre à des gens qui regardent pas forcément les émissions politiques traditionnelles, par ce biais-là, ensuite d'avoir envie d'aller plus loin et de consulter notre programme, nos propositions, et pourquoi pas de nous rejoindre le 23 avril.
Bon, alors c'est la Silicon Valley, si on comprend bien, dans l'équipe Mélenchon.
Non.
Pourquoi, alors, si on revient à la politique, stricto sensu, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne demande pas le retrait de Benoît Hamon, qui lui-même avait demandé le retrait de Jean-Luc Mélenchon? Or, quand on a vu que les sondages s'étaient quand même inversés, vous êtes d'accord sur plusieurs choses, pourquoi vous lui demandez pas de se retirer?
Ben, parce que c'est pas...
une force de gauche.
Non, mais parce que nous, on est candidat à cette élection, Benoît Hamon aussi, il a sa forme de légitimité dans l'élection, c'est pas de notre responsabilité à nous de lui dire rentre à la maison. Donc voilà, nous on a dit depuis le début, et vous savez, il y avait un pacte de non-agression entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Nous on a dit, il y a 50% des gens qui aujourd'hui n'ont pas fait leur choix. C'est à ces gens-là qu'on a envie de convaincre aujourd'hui de venir nous rejoindre. C'est pas spécialement les électeurs de Benoît Hamon. Après, Benoît Hamon prendra ses responsabilités, mais c'est pas à nous de lui dire retire-toi de cette élection.
Vous refusez la main tendue d'Hamon, vous n'appelez pas Hamon à
non,
raison.
Non, c'est pas qu'on a refusé, par ailleurs.
C'est un gentleman agreement à se retirer. Pour autant, on a l'impression que vous avez les mêmes soucis qu'Hamon. Vous-même, vous avez ce souci de rassemblement à gauche.
Bien sûr.
La gauche sociale libérale ne reviendra jamais dans vos rangs, ce qui fait
sûr.
Que la gauche ne gagnera pas.
Ben ça c'est
cette
non,
fois-ci
je
en
crois
2017.
Pas. Je crois pas qu'on puisse dire ça. Je crois qu'à 3 semaines de l'élection,
les jeux sont pas faits.
La personne qui sait deviner le résultat est très intelligente.
En tout cas, programme du rassemblement, vous l'avez.
Non, mais nous on est bien sûr, mais il y a déjà du rassemblement. Vous savez, dans la France insoumise, de plus en plus, il y a des membres d'Europe Écologie qui nous rejoignent, il y a des membres de Nouvelle Donne qui nous rejoignent, il y a des communistes, il y a des anciens socialistes. Bon, donc la France insoumise est déjà une forme de rassemblement. Donc bien sûr, mais on veut s'adresser plus large. On ne veut pas parler uniquement aux petits partis politiques de l'autre gauche, et on veut s'adresser au peuple dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a fait la campagne sur un mouvement, la France insoumise, et qu'on refuse aussi cette catégorisation ou cette latéralisation droite-gauche traditionnelle.
Alors, Manuel Valls a dit la semaine dernière son soutien à Emmanuel Macron. Ça a fait beaucoup causer. Ça fait des années, voire des décennies qu'on parle de la mort du PS, du Parti Socialiste, qu'il va imploser, qu'il va mourir, qu'il est sous respirateur. Est-ce que vous y croyez à cette mort du Parti Socialiste, ou vous vous dites, bon, il est condamné à renaître sur ses propres ambiguïtés et finalement rien ne changera au pays des socialistes?
Bah non, mais d'abord, dans cette élection, le Parti Socialiste, il a explosé en deux avec la décision de Manuel Valls. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Non, mais c'est
vous
bon
avez
le
finaliste
le dire,
de la primaire.
Quoi, il est toujours...
Bah, vous avez quand même le finaliste de la primaire du Parti Socialiste qui soutient un autre candidat.
Oui, mais si Benoît Hamon fait ses pauvres petits 10% dont il est crédité, est-ce qu'il aura la main sur le Parti Socialiste?
Je sais pas, et vous savez, c'est pas vraiment mon problème. Hein. On est dans une élection présidentielle.
La disparition du Parti Socialiste est une des ambitions de Mélenchon.
Vous vous trompez. Je pense que vous vous trompez. Notre ambition, c'est
quoi,
de proposer au pays une autre voie, un autre chemin. C'est de gagner l'élection présidentielle. C'est d'avoir enfin un pays qui peut être demain la première nation écologique du monde, qui peut réinventer sa démocratie, qui peut mettre un terme à la pauvreté dans ce pays. C'est ça nos objectifs. Nos objectifs, c'est pas de régler ou pas le sort du Parti Socialiste.
Et quand on regarde un peu votre programme, on pense un peu à la phrase de Georges Marchais, bah, faut prendre l'argent là où elle est.
Oui.
Est-ce que aujourd'hui, c'est un programme bien sérieux, est-ce que vous pensez qu'on peut qu'un pays peut vivre en disant bon bah les riches on n'en veut pas, les
faut nationaliser?
Enfin bon, c'est toujours l'attaque des puissances de l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour un pays vivre, je veux dire, c'est pas le Venezuela, la France.
D'accord.
Est-ce que je caricature un peu,
un petit peu,
mais c'est la plupart du temps, Mélenchon, on l'entend sur ces sujets-là.
D'accord. Alors, écoutez, d'abord, je disais, on a un programme. Il est sorti, il est public, il est sorti le 1er décembre. On a un chiffrage de ce programme qui a été fait. Oui. Tous les candidats n'ont pas chiffré leurs propositions et leurs programmes. Notre programme, c'est un programme qui est entièrement chiffré. Est-ce qu'il y a besoin de riches ou de pauvres dans le pays? Moi, je pense qu'il y a trop de pauvres, surtout dans ce pays, et qu'il y a effectivement de l'argent qu'on peut aller récupérer. Pour autant, on n'est pas en train de vous dire qu'il n'y aura plus aucun écart de salaire. Par exemple, une des mesures dans le programme, c'est de dire on va limiter les salaires de 1 à 20. Ça va, ça laisse de la marge pour ceux qui en ont beaucoup. Juste, on trouve que c'est pas normal.
Oui, mais si les plus riches en ont, est-ce que les plus pauvres en auront forcément? C'est ça le.
Ça s'appelle quand même le partage de la richesse. Donc, quand on limite les salaires de 1 à 20, je peux vous dire, là, c'est clair et précis que si la personne qui a le salaire le plus important dans l'entreprise s'augmente, alors il est forcé et contraint d'augmenter le plus bas salaire.
Le problème, c'est le chômage.
Il y a effectivement la question justement... du chauffage. On a un programme
chômage,
qui propose du chômage, pardon. Il y a un programme aujourd'hui qui propose, et en tout cas dans le chiffrage, environ 3 millions d'emplois créés, notamment 300 à 400 000 dans l'agriculture pour passer à une agriculture paysanne, 300 000 dans l'économie de la mer, près d'un million d'emplois dans la transition écologique.
Oui, c'est un programme très généreux. D'ailleurs, vous adressez aux classes populaires. Le souci, c'est que ces classes populaires, elles sont chez Marine Le Pen.
Non, non.
Est-ce que ça, c'est pas un vrai souci pour votre campagne? Est-ce que la vraie concurrence pour Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen, même si, eh bien, Jean-Luc Mélenchon minimise la portée de la patronne du FN, on l'écoute.
Je n'ai pas envie d'un meeting à l'autre de changer mes mots d'ordre. Je ne suis pas Madame Le Pen. Un jour pour les 35 heures, le lendemain pour le contraire, et ainsi de suite. Peu importe. De toute façon, celle-là, elle n'a pas besoin de se faire de soucis. Son programme ne s'appliquera jamais. Car une chaise, une table, un banc sera élu plutôt qu'elle dans ce pays.
Partager cette conviction que Marine Le Pen ne sera pas qualifiée au second tour?
Ah non, c'est pas ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il a dit que
son programme ne s'appliquerait jamais.
Oui, que n'importe qui serait en face de Madame Le Pen au deuxième tour serait élu. Je crois effectivement que ça correspond à la réalité. Ouais. Après, vous avez dit le vote populaire est chez Marine Le Pen. Non, aujourd'hui, les catégories les plus populaires dans ce pays, et malheureusement, et on en est, et en tout cas, on veut pas se résigner à cette situation. Surtout, ils s'abstiennent, ils ne votent plus, ils ne croient plus aux engagements des responsables.
Une grande partie
politiques.
Des classes populaires votent Marine Le Pen.
Non, la plupart. Le plus grand parti aujourd'hui de la classe ouvrière, c'est les abstentionnistes. Nous, en tout cas, c'est à eux que nous avons envie de nous adresser. Et franchement, on comprend le fait qu'ils se réfugient dans l'abstention quand on voit ce qui a été fait des promesses de campagne ces dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, par exemple, la question d'une 6e République et d'une politique plus vertueuse dans le débat public comme un axe prioritaire de la campagne.
Mais ce que vous voulez dire, Vernet, quand on voit les chiffres, c'est que Mélenchon attire le vote de 13% des ouvriers, Marine Le Pen 51%.
Oui.
Donc, on voit bien qu'il y a quand même que il peut être populaire, mais en tout cas le vote populaire va pour l'instant en majorité chez Marine Le Pen.
Parmi ceux qui votent, effectivement, c'est ce que disent les enquêtes d'opinion. D'abord, je redis que une majorité d'entre eux ne votent pas, ne se déplacent pas. Et après, les chiffres que vous donnez, c'est bien la preuve qu'il nous reste du travail à mener. On est d'accord.
Alors, vous êtes un lecteur d'Antonio Gramsci, s'il me semble bien,
oui.
Vous, qui est donc qui a théorisé l'idée que avant de gagner la bataille électorale, on gagne la bataille des idées, la bataille culturelle. Est-ce que cette bataille culturelle, c'est pas Marine Le Pen qui est en train de la gagner en tout cas?
Non, cette bataille culturelle, elle est dans cette élection présidentielle. Je vous disais, il y a trois grandes familles. Je crois qu'on a gagné des points dans la bataille culturelle. Le fait que Benoît Hamon remporte la primaire du Parti Socialiste, c'est quand même... il le fait en venant sur les positions que Jean-Luc Mélenchon défend depuis plusieurs années. C'est quand même le résultat d'un courant d'idées dans la société, de gens qui commencent à s'intéresser. Par exemple, la question écologique, elle est devenue centrale. Elle l'était sans doute moins ces dernières années. La question d'une rénovation institutionnelle est devenue aujourd'hui une urgence impérative. De plus en plus de gens n'en peuvent plus de cette 5e République qui déconnecte les citoyens de leurs responsables politiques. Donc je pense qu'on a marqué des points. Après, voilà, la bataille culturelle, elle est en cours. Et Mme Le Pen, elle essaye aussi de gagner cette bataille
Jean-Luc
culturelle.
Jean-Luc Mélenchon a été quelque part le père des frondeurs socialistes qui ont pourri le quinquennat de
Non, je ne crois pas qu'il soit le père de qui que ce soit. Mais je pense qu'on peut lui reconnaître au moins. On n'est pas obligé d'apprécier toutes ses propositions. Mais je crois qu'on ne peut que lui reconnaître une cohérence, une constance dans ses propositions, et je pense que c'est ce qui paye aujourd'hui, parce que les Français, ils en ont un peu assez des gens qui chaque année changent d'avis. Et de ce point de vue-là, l'extrait que vous avez montré de Jean-Luc Mélenchon sur Madame Le Pen est assez intéressant. faudrait que Madame Le Pen éclaircisse un petit peu ses propositions. On n'arrive plus à savoir si elle est pour ou pas la retraite à 60 ans. Une fois elle est pour, une fois elle est contre. Là, je trouve qu'il y a, quand même une ambiguïté, un flou autour de ses propositions qu'il faudrait qu'elle éclaircisse.
Si Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas au second tour, vous appellerez à voter Macron contre Marine Le Pen?
Bon, écoutez, je pense que le premier tour de l'élection, il est dans 3 semaines. Vous nous permettrez pour l'instant de rester dans la campagne, de tout faire. Je pense que l'hypothèse d'une présence de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, elle est aujourd'hui crédible et possible. Vous l'avez dit, les enquêtes d'opinion disent que Jean-Luc Mélenchon est pour l'instant juste derrière Monsieur Fillon. Dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon dépasse Monsieur Fillon, je crois que tout devient possible. En tout cas, nous, c'est ce à quoi on travaille. Après, qu'est-ce qui se passera si nous ne sommes pas au deuxième tour? On y répondra en temps voulu.
Merci beaucoup, Manuel Bompard, donc coordinateur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. Merci, Véronique.
Bonsoir.
Et c'est la fin de cette émission. Merci à Agnès Le Cossec et Audrey Yatoni d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée.